Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين
par la figue et par l'olive, et par le mont Sinin, et par cette cité sûre. Très certainement, nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux, un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonjour amis auditeurs, ravi de vous retrouver en ce dimanche 9 février 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. Les quatre revendications toujours à l'ordre du jour de l'équipe négociatrice iranienne à Vienne. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci de votre écoute. À la une de ce journal, l'accord nucléaire Shamkhani critique le manque de cohésion dans le camp américain. Nucléaire iranien toujours, nous sommes certainement dans les dernières étapes de la négociation, déclaration de Josep Borrell. Et puis le CGRI a dévoilé son missile à longue portée, briseur de Kheibar. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, Ali Shamkhani, a déclaré que les divisions politiques au sein de l'établissement américain au pouvoir empêchent Washington de prendre les décisions politiques nécessaires pour faire avancer les pourparlers de relance du PGAC à Vienne. Dans un message sur Twitter, Shamkhani a affirmé que le gouvernement américain ne peut pas compenser ses crises intérieures en violant les droits du peuple iranien. Il y a quelques jours, les États-Unis ont accordé une série de dérogations aux sanctions contre l'Iran, mais maintenant, certains législateurs républicains expriment leur indignation contre Washington face à ces décisions. Dans un témoignage classifié devant le Congrès de l'envoyé spécial américain pour l'Iran, Robert Mallet, les législateurs républicains ont appelé à une audience publique. Ils ont déclaré que l'administration Biden n'avait pas été transparente sur le processus de sa conduite concernant le PGAC. Dans une lettre à Biden, un groupe de 33 législateurs a déclaré qu'il contrecarrait la mise en œuvre de tout nouvel accord si son gouvernement ne permettait pas au Congrès d'examiner et de voter selon ses conditions. Le groupe de législateurs est dirigé par le sénateur Ted Cruz, un opposant de longue date à l'accord international avec l'Iran. Ils ont menacé d'utiliser toute la gamme d'options et de leviers disponibles pour s'assurer que l'administration Biden respecterait les lois américaines avant de réintégrer le plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015. Les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord en 2018 et maintenant Téhéran demande des garanties contre toute violation à l'avenir. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian ont souligné lors d'un appel téléphonique, parallèlement à la reprise de la nouvelle phase du 8e cycle des pourparlers de Vienne, la nécessité d'une mise en œuvre appropriée du plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015, PGAC. Le site officiel du ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que lors de cette conversation téléphonique qui a eu lieu le mardi 8 février, Les deux parties ont discuté de questions liées au pourparlers de Vienne et ont souligné la nécessité de relancer l'accord historique des copossibles. Selon le rapport, les dernières évolutions liées au PGAC et au pourparlers de Vienne ont été discutées par les deux hommes qui ont insisté sur la pleine mise en œuvre de l'accord nucléaire. Les deux parties ont souligné la nécessité d'une relance rapide du PGAC dans sa configuration initiale et équilibrée, approuvée par le Conseil de sécurité de l'ONU, peut-on lire dans la déclaration émise par les affaires étrangères russes. Le ministère a également indiqué que les deux très hauts diplomates avaient échangé des vues sur les résultats de la visite fructueuse du président de la République islamique d'Iran, Ebrahim Raisi, à Moscou, et avaient discuté de l'élargissement de la coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, ainsi que des questions régionales. Nucléaire iranien toujours, nous sommes certainement dans les dernières étapes de la négociation, déclaration du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Le 8e cycle des pourparlers sur la levée des sanctions a été repris à Vienne mardi 8 février après quelques jours de respiration. Selon l'IRNA, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a dit son espoir d'une issue rapide, même si des divergences importantes demeurent. Les deux parties ont fait preuve de la volonté, de la bonne volonté, a-t-il estimé. Il y a une offre américaine, il y a une contre-offre. Je ne sais pas si cela va durer une semaine, deux semaines, trois semaines, mais nous sommes certainement dans les dernières étapes de la négociation, a ajouté le chef de la diplomatie européenne. La Chine affirme que les États-Unis sont responsables de la crise autour de l'accord de 2015 et doivent donc complètement corriger leur politique de pression maximale contre Téhéran. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que Washington devrait lever toutes les sanctions illégales qu'il a imposées à l'Iran et à des parties tierces. Il a souligné que ce n'est que sur cette base que Téhéran devrait reprendre le plein respect de l'accord. Lijian a qualifié les récentes levées de sanctions américaines contre l'Iran de pas dans la bonne direction. Il a noté que la Chine essayait de jouer un rôle constructif pour faire avancer les négociations à Vienne. Des représentants de l'Iran, de la Chine et des autres signataires de l'accord sont actuellement dans la capitale autrichienne dans le cadre du 8e cycle pour parler visant à relancer l'accord et à ramener les États-Unis au respect de leurs obligations. Autre thème, le missile stratégique à longue portée briseur de Khaybar du corps des gardiens de la révolution islamique CGRI a été dévoilé, je vous le disais en titre, en présence du général de division Mohammad Borrelli, chef d'état-major général des forces armées. À l'occasion du 43e anniversaire de la victoire de la révolution islamique et à la veille de la fête nationale du 11 février, le général de division Mohammad Borrelli, chef d'état-major général des forces armées, et le général brigade Amir Ali Hojizadeh, commandant des forces aérospatiales du CGRI, ont dévoilé le missile à longue portée briseur de Khaybar en tant que dernière réalisation stratégique des forces armées iraniennes. Le briseur de Khaybar profite de la technologie de la propulsion à propergol solide, l'agilité et la vitesse extrêmes pour atteindre des cibles dans un rayon de 1450 km sont d'autres caractéristiques de ce missile. Il peut également pénétrer dans les boucliers de missiles avec une grande maniabilité. Le projectile est classé dans la troisième génération de missiles à longue portée développés par le corps des gardiens de la révolution islamique. Ce système entièrement iranien a été conçu et construit à 100% par les scientifiques du corps des gardiens de la révolution islamique. Le mot Khaybar dans l'histoire de l'islam fait référence au château des juifs de Médine au temps de prophètes. Ces dernières années, l'Iran a fait de grands progrès dans son programme de missiles qui, selon lui, est entièrement à vocation défensive et dissuasive. L'Iran et la Finlande soulignent la nécessité de lutter contre le fléau du terrorisme. Le secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme et la directrice générale du département pour l'Afrique et le Moyen-Orient du ministère finlandais des Affaires étrangères, Sophie Fromm-Hemmersberger, se sont rencontrées à Téhéran et ont souligné la nécessité de lutter contre le fléau du terrorisme et d'élargir la coopération juridique et judiciaire. Le secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme, Qasem Gharibabadi, a rencontré la directrice générale du département pour l'Afrique et le Moyen-Orient du ministère finlandais des Affaires étrangères. Lors de cette réunion, Gharibabadi a expliqué les politiques des droits de l'homme et la diplomatie judiciaire de la République islamique d'Iran et a annoncé que Téhéran était prêt à des pourparlers sur les droits de l'homme et à une coopération juridique et judiciaire avec la Finlande. Le secrétaire général du Bureau iranien des droits de l'homme a critiqué l'approche politique adoptée par certains pays en ce qui concerne les droits de l'homme et les doubles standards à cet égard. Il a ajouté : il est regrettable que certains pays utilisent les droits de l'homme comme un outil politique contre d'autres. Enfin, le comité d'enquête sur l'assassinat des martyrs Soleimani et Al-Mouhandis se réunit en Irak. La troisième réunion du comité d'enquête sur l'assassinat des martyrs Hossein Soleimani, commandant de la force Quds, force extérieure du corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI, et Abu Mahdi Al-Mouhandis, commandant adjoint des forces de mobilisation du peuple irakien Hashd al-Shaabi, et leurs compagnons de lutte ont commencé ce mardi à Bagdad. Cette réunion a été organisée pour examiner les dernières évolutions liées à l'enquête et l'échange des documents entre les organes concernés des deux pays. En septembre dernier, notre ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, arrivé à Bagdad pour assister à une réunion sur le soutien régional à l'Irak, a déclaré « L'appareil diplomatique de la République islamique d'Iran donnera suite à cette enquête et assurera le suivi des questions juridiques et internationales de l'assassinat du très haut général iranien Hossein Soleimani et Abu Mohandis, commandant des Hashd, la mobilisation populaire irakienne. » Fin de ce journal, merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. Les quatre revendications toujours à l'ordre du jour de l'équipe négociatrice iranienne à Vienne. Étant en pleine coordination avec les principales instances décisionnelles de son pays, l'équipe négociatrice iranienne a atteint un ordre du jour spécifique pour quatre domaines dans les négociations à Vienne. Le 8e cycle des pourparlers sur la levée des sanctions a été repris à Vienne mardi 8 février, après quelques jours de respiration, selon l'IRNA sur place. Ali Boreri, le chef de l'équipe négociatrice iranienne, qui est parti pour Vienne mardi matin, avait dans son agenda plusieurs rencontres, dont avec Henrik Mora, le coordinateur de la commission mixte Iran 4+1. Alors que les négociations à Vienne progressent et que les rendez-vous étaient marqués par d'âpres pourparlers techniques, en particulier lors des 7e et 8e cycles, les délégations de négociations à Vienne sont retournées dans leurs capitales respectives au début de la semaine dernière pour des coordinations nécessaires au sujet des questions en suspens et pour reprendre des décisions politiques. Une source proche de l'équipe négociatrice iranienne a déclaré à l'IRNA que cette dernière a fait des consultations détaillées avec les plus hautes autorités de la République islamique d'Iran lors de son séjour à Téhéran la semaine dernière et cette semaine. Selon le rapport, l'équipe de négociation iranienne, après des coordinations dans les quatre domaines, à savoir la levée des sanctions, la vérification de la levée des sanctions, l'obtention de garanties et les engagements nucléaires liés au PGAC, Plan global d'action conjoint sur le nucléaire iranien de 2015, s'est rendu à Vienne avec un ordre du jour clair et en pleine coordination avec les plus hautes autorités décisionnelles du pays. Par rapport au précédent cycle de négociations, la délégation iranienne s'est présentée au pourparlers plus coordonnée que jamais. elle est largement en harmonie avec les plus hautes autorités décisionnelles de son pays, ce qui doit être vu comme une opportunité à saisir par les 4+1 engagés dans les négociations à Vienne. Le principal négociateur américain à Vienne, dont le pays est plus que jamais divisé sur son réintégration au PGAC, a été convoqué au Sénat, et cela à la dernière minute, et environ 10 jours après la pause annoncée pour les coordinations des délégations négociatrices avec leurs capitales respectives. La convocation de la réunion au Congrès au lendemain de la reprise des pourparlers à Vienne révèle clairement que la partie américaine n'est pas encore parvenue à une conclusion définitive à l'échelle intérieure et débat toujours.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, les relations entre le Mali et la France se sont fortement dégradées et la mobilisation anti-française se propage à travers le pays et même est très contagieuse puisque au Burkina Faso et au Niger, on a l'impression donc que ces deux pays et donc suivent le modèle malien. Alors, les Maliens exigent que la France cesse de planter son couteau du terrorisme dans le dos des Maliens et quitte ce pays. En effet, la France n'est pas le seul pays qui, depuis plus de 10 ans presque, a essayé de neutraliser économiquement et militairement le Mali et beaucoup de pays africains. Sachez également que le Premier ministre malien, tout en renvoyant l'ambassadeur français du Mali, a fait clairement entendre que le Mali avait l'intention de se tourner vers l'axe de l'Est. Pas seulement la Russie, mais également vers la Chine et l'Iran pour sauver le Mali. Géopoliticien depuis Bruxelles, M. Michel, bonjour.
Oui, bonjour à vous, bonjour au professeur Dortiguier, mon collègue.
Voilà, justement, M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse. Bonjour, M. Dortiguier.
Monsieur, bonjour à Monsieur Michel et à tous les auditeurs.
Ce que la France a très bien réussi au cours de ces presque 10 années, c'est de neutraliser militairement et économiquement le Mali et bien sûr piller la richesse. Que pensez-vous?
Le but de l'intervention française, ce n'est pas de combattre le terrorisme. Le terrorisme, au contraire, il fait partie du dispositif militaire occidental. C'est un prétexte à l'ingérence, comme la piraterie dans le golfe de Guinée et au large de la côte de Somalie sert à l'ingérence des marines occidentales. C'est le même phénomène. Aujourd'hui, on a atteint un point de rupture entre le bloc américano-occidental, pas seulement la France, puisque des pays de l'OTAN comme la Suède et le Danemark ont été chassés du Mali. Le point de rupture est atteint des deux côtés. L'Union européenne, vendredi, a pris des sanctions personnelles contre Choguel Maïga et plusieurs membres de son gouvernement. Et tout cela se déroule sur un fond d'accord militaire entre l'État russe, je le précise, et l'État malien qui voit les paramilitaires russes se déployer malgré tous les hurlements du bloc occidental. C'est donc la rupture qui est avérée. Derrière cette rupture, évidemment, elle est constatée par les médias français. France 24 ou Le Point, au cours des dernières 48 heures, ont publié des éditoriaux en disant qu'il était temps de quitter le Mali. Tout cela se fait sur un fond géopolitique et diplomatique. Il y a un livre qui est sorti cette semaine. Il s'intitule cynismativement « Le déclassement français ». Il explique comment la France est déclassée géopolitiquement, pas seulement en Afrique, mais aussi au Proche-Orient, au Liban et en Syrie, par exemple, ou encore dans l'Est, dans le Pacifique face à l'Australie. C'est la décadence de la France, C'est d'ailleurs un sujet, cette déchéance française, ce déclassement français, qui imprègne le débat présidentiel. C'est obsessionnel chez des candidats comme Marine Le Pen, comme Valérie Pécresse ou encore comme Zemmour.
Oui. Monsieur Pierre d'Ortiguier, nous remercions bien sûr Monsieur Luc Michel pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître la vôtre. Donc, il est caché pour personne que la France n'est pas au Mali pour combattre le terrorisme et pour piller la richesse de ce pays, car vraiment, on peut le voir très clairement. Comme les responsables maliens, justement, en renvoyant l'ambassadeur français du Mali, expliquent clairement ceci, n'est-ce pas?
En effet, c'est-à-dire c'est la fin de ce qu'on appelait, M. Luc Michel en a parlé dans une dernière intervention, de la France-Afrique. C'est une réalité qui a duré plus d'une génération et qui était en arrière-fond, disons, un arrière-plan, qui se tenait, disons, derrière les concessions que la France faisait à l'Algérie, que faisait, disons, à la fin des guerres coloniales. Et il existait, disons, une sorte de forteresse africaine et qui était, disons, pour notre économie, une sorte d'État dans l'État. Et c'est ainsi qu'il faut le voir. Maintenant, ceci, bien sûr, a craqué. A craqué, à notre avis, non pas sous le coup de la résistance proprement locale africaine, mais de par la formation justement d'une entente africaine générale à laquelle l'Algérie a participé d'ailleurs, qui était à son berceau, et qui aujourd'hui porte ses fruits du nord au sud de l'Afrique. C'est-à-dire qu'il y a véritablement une ouverture de l'Afrique à des perspectives intercontinentales et non pas simplement à des relations entre anciens ou perpétuels colonisateurs et néocolonisés, comme on disait, c'est-à-dire des gens qui adoptent une forme nouvelle de politique économique et financière, mais qui est quand même basée, qui est fondée surtout sur un rapport, disons, de dépendance univoque. Et maintenant, bien sûr, comme l'a dit M. Michel, c'est l'OTAN même qui a été visée, disons, à travers le Danemark et la Suède. Ben, je veux dire que les Africains me semblent avoir une conscience, disons, je dirais, dans le bon sens du terme, conscience mondiale. On parle de vision du monde souvent. Là, il s'agit d'une vision du monde, vous voyez. C'est-à-dire que l'Afrique me semble être entrée, justement, dans cette vision mondiale, l'Afrique elle-même, sa conscience, et du nord au sud. Et je crois que ça, c'est une conclusion que les candidats auxquels M. Luc Michel a fait allusion, les candidats à la présidentielle, peuvent, disons, donner des étiquettes différentes. Oui. Mais on est obligé, disons, d'en tirer, disons, cette conclusion. Alors, il y a, bien sûr, des slogans. On essaie d'orienter les gens vers l'intervention russe et autres. En fait, tous ces accords, par exemple, sur le fameux plan de le rôle des mercenaires dont on parle, du groupe Wagner et autres, ne sont que des effets de relations, diplomatiques. Ce sont des accords, disons, des enchaînements d'accords qui aboutissent donc à des mesures de sécurité. On dit lutte contre le terrorisme, mais cette vague des dénominations de terrorisme cache bien sûr des prétextes. Le terrorisme, comme que ce soit en Afrique ou au Proche-Orient, a été le marchepied, disons, des interventions perpétuelles, interventions, je ne parle pas perpétuelles, à longue durée, voyez-vous, que se réservent les anciens États colonisés, colonisateurs, ou disons, comme c'était le cas pour nous, en Orient, disons, protecteurs, après la fin de la Première Guerre mondiale. Voilà, je crois que nous assistons à une tempête sur l'Afrique, mais une tempête dans une Afrique qui me semble se tenir solidement, voyez-vous, à travers une institution, disons, une conscience africaine plus unifiée qu'autrefois.
Oui. Oui. Luc Michel, tout à l'heure, vous avez évoqué certaines chaînes françaises que, d'après des hommes politiques maliens, exercent un terrorisme médiatique. En fin de compte, la France possède tout de même le média, n'est-ce pas?
C'est tout à fait exact. Ce sont des chaînes qui concernent notamment des médias d'État, France 24, RFI, qu'on appelle en Afrique Radio France Intoxication. Il y a également Arte ou Euronews qui sont cofinancés par Berlin et Paris. Tous ces gens, quotidiennement, dans des dizaines d'articles, exercent un terrorisme, diffament la révolution malienne. On prend par exemple des généraux du Mali alors qu'il n'y a pas de généraux derrière le coup d'État militaire. Ce sont des colonels comme l'était le colonel Kadhafi. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut souligner. C'est un phénomène géopolitique. Il y a quelques années, en 2015, le grand état-major français avait rendu un rapport à l'Élysée. On lui demandait d'identifier l'ennemi de la France et de l'OTAN au cours des 20 prochaines années. Ils avaient dit que ça allait être la Russie, alliée au néo-panafricanisme. Ça a été exact. Aujourd'hui, les forces vives de l'Eurasie en marche à Pékin, à Moscou et à Téhéran sont unifiés aux forces vives de l'Afrique en marche du néo-panafricanisme dans une alliance dynamique. C'est ce que j'appelle l'axe Eurasie-Afrique. Cet axe Eurasie-Afrique, il est en train de combattre contre le bloc occidental pour un monde multipolaire et pour mettre un terme au néocolonialisme. C'est cela que les Occidentaux n'ont pas vu arriver, en particulier avec la guerre hybride des Russes et des Iraniens. Vous savez que la guerre hybride, c'est une invention iranienne au Liban en 2010. Elle est aujourd'hui exportée en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au Venezuela par exemple et au Nicaragua. C'est la réalité géopolitique du monde de 2021. Au milieu de tout cela, l'agression occidentale, ce qu'on a appelé le printemps arabe de 2010 ou le printemps africain de 2014, ils sont mis échec et mat.
Oui, Luc Michel, pour confirmer un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le Premier ministre malien a fait clairement entendre que le Mali se tournait vers l'axe de l'Est. Bon, vous avez évoqué la Russie, bien sûr, et même les responsables maliens ont déclaré tout récemment qu'ils avaient acheté des armes à la Russie et pendant ces 20 jours, ils ont tué plus de terroristes que depuis 20 ans
oui,
les autres forces.
C'est tout à fait exact. Depuis l'intervention des Russes il y a quelques semaines, il y a des résultats. Il y a des terroristes qui sont identifiés, mis en état de nuire. Il y a en particulier une colonne à moto. Il y avait près de 300 motos. Les autorités algériennes, le service de sécurité algérien, disent que c'est les Français qui avaient fourni les motos aux djihadistes. Une colonne a donc été arrêtée par les services maliens et algériens à la frontière entre les deux pays. On avait vu le même phénomène en Centrafrique. Nous sommes en janvier 2021, alors que depuis 8 ans, les Français et l'ONU, donc les casques bleus de la MINUSCA, sont incapables d'empêcher les groupes rebelles. En quelques semaines, en 21 semaines, ils sont neutralisés par les FACA alliés aux paramilitaires russes, non pas du groupe Wagner qui n'existe pas, mais du groupe Sewa Security. Et en 21 semaines, l'autorité de l'État centrafricain est rétablie sur toutes les préfectures du pays. C'est le même phénomène qui est mis en route, évidemment, au Mali. Et les Occidentaux sont complètement paniqués parce que l'imposture occidentale, la soi-disant guerre au terrorisme qui n'a rien donné en 8 ans, il y a eu 53 morts français. C'est une farce. Au Vietnam en 1960, entre 1960 et 1968, les Américains, dans une véritable guerre pour le contrôle du pays, ils ont eu plus de 100 000 morts. 53 morts, c'est un théâtre, c'est ridicule. L'imposture occidentale et française, elle apparaît au grand jour. Elle est en train d'être démontrée avec l'efficacité de l'armée russe, armée alliée à l'armée locale, ici les FAMA, comme elle est alliée à l'armée locale en Centrafrique des FACA.
Oui. Pierre Dortiguier, votre prise de position, je vous prie, face à ce rapprochement du Mali à la Russie, mais également à la Chine et l'Iran. car les responsables maliens se semblent très contents de se rapprocher et de se tourner vers l'axe de l'Est.
En effet, c'est-à-dire qu'il s'agit là, c'est l'avantage d'un rapport, je dirais, équivoque, d'un rapport, disons, ouvert, à un rapport univoque. Ce qu'on appelle un rapport univoque, c'est-à-dire lorsque les alliances sont en réalité des subordinations politiques, économiques, c'est ce que nous appelons la France-Afrique. Évidemment, disons que les États africains, qui sont les États hôtes, sont obligés de se soumettre à une stratégie qui, dans le cas du Mali, considéré les groupes terroristes comme finalement des occasions d'intervention. C'est-à-dire qu'ils étaient à la fois, disons, pourchassés, en même temps qu'ils étaient, si je puis dire, mis de côté, c'est-à-dire mis en réserve. Et il ne s'agissait pas d'une guerre ouverte, d'une guerre, peut-on dire, d'élimination. Non, il s'agissait d'un prétexte renouvelé, voyez-vous. C'est-à-dire l'essentiel étant la présence continuelle. Et c'est cela, c'est ce qu'on appelle une présence, une sorte de tuteur colonial, voyez-vous, néocolonial, postcolonial, quels que soient les mots. Je crois que là, cette réaction de ce qu'on appelle ici, de façon caricaturale, la junte militaire, on essaie de dire, oui, il n'y a pas eu d'élection, etc., ce n'est pas démocratique, et tout ceci ne tient pas face à la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que la population souffre de plus en plus, justement, de cette guerre, voit le terrorisme, disons, étendre son influence, malgré les injections d'hommes, de matériel que nous faisons en France et en Europe. Donc il y a bien un but, il y a bien, disons, je ne dis pas une intention cachée, mais une direction quand même, que le peuple est capable de voir, puisqu'il en souffre immédiatement. Je crois que cette réaction de la part du gouvernement malien a d'abord été, en premier, et le sera, une réaction populaire. Et ceci est une réaction, disons, qui peut ébranler l'ensemble de l'Afrique. Je crois que les Africains ont été immédiatement sensibles, tous, justement, à cette réaction-là. Elle n'était pas attendue, car il y a toujours eu une sorte de morgue, j'ai pu dire, néocoloniale, postcoloniale, qui consiste à considérer l'Afrique comme un grand enfant, voyez-vous. Je crois que c'est, M. Michel ne me contredira pas, c'est une maladie, si je puis dire, qui est une sorte qui est un manque de mûrissement, je dirais, à la fois dans la conscience mondiale, que nous n'avons pas. Les Français, malheureusement, sont élevés dans une attitude postcoloniale et non pas dans une attitude de connaissance du monde, comme celle que le président de Gaulle avait voulu insuffler. Et là, il a échoué. C'est la France-Afrique, au contraire, qui s'est maintenue à travers lui, je dis bien, mais aussi après lui. Voilà, c'est cela qui compte. Et cela aura des répercussions, à notre avis, très importantes sur le plan intérieur français.
Luc Michel, les répercussions que M. Pierre Dortiguier fait allusion, est-ce qu'on peut parler d'une mobilisation anti-française à travers toute l'Afrique?
Oui, dans tous les pays africains, les masses néo-panafricanistes sont vent debout contre la France. C'est un phénomène nouveau, cette irruption des masses panafricaines. Aujourd'hui, les chefs d'État qui étaient des sous-préfets français comme Alassane Ouattara ou Mohamed Bazoum au Niger, ils sont obligés de tenir évidemment compte de ces masses et de prendre en compte leurs préoccupations. C'est le résultat du travail unique au monde d'un média qui est nos confrères d'Afrique Média, avec lequel j'ai le plaisir de collaborer depuis bientôt cette année. C'est Afrique Média qui a conscientisé les masses et qui fait qu'aujourd'hui, il y a des centaines de millions d'Africains qui sont mobilisés. Par exemple, au Mali, il y a eu des manifestations vendredi. Bamako s'est couvert de drapeaux russes et chinois. Les dernières manifestations n'ont pas réuni quelques centaines ou quelques milliers de Maliens, comme le disent les médias français, mais près de 4 millions. C'est cela la réalité. Maintenant, il faut dire un mot sur le général de Gaulle, parce que il faut quand même dire que c'est l'homme politique français qui est le plus détesté en Afrique. De Gaulle, ça a été un libérateur. En Afrique, on se souvient de son slogan de l'Europe jusqu'à l'Oural avec l'URSS. Ça a été un libérateur au Mexique et au Québec. Ça ça a été un libérateur à Phnom Penh en Indochine, mais en Afrique, ça a été un néocolonialiste et un néo-esclavagiste. Avec son âme damné Foucault, qui dirigeait les services de police secrète du gaulliste, il a mis au point cette France-Afrique qui, en fait, était un mécanisme de confiscation des indépendances africaines au bénéfice de la France. Pourquoi est-ce que la France est au Mali, par exemple, et au Niger? C'est pour l'uranium de ces pays. La France, elle exporte avec Areva des centrales nucléaires, mais on ne produit pas une once d'uranium sur le sol français. L'uranium, il est volé au Niger, il est volé au Mali. C'est cela qui se termine. Par exemple, le grand concurrent russe d'Areva, qui est Rosatom, puisque Rosatom est présent maintenant dans 15 pays africains, par exemple, il produit son uranium en Mongolie extérieure sur le territoire russe. Voilà la différence. On vole le pétrole, on vole le gaz, on vole l'or, on vole le manganèse. La France a, par exemple, les quatrièmes réserves d'or mondiales, alors qu'on ne produit pas d'or sur le territoire français, pas plus que d'uranium. L'or des réserves françaises, il est volé en Afrique. Il est temps que ça se termine. Et l'homme qui a avalisé ce vol et qui l'a mis au bois avec Foucault, c'est le général de Gaulle.
Pierre d'Ortiguier, est-ce que la France va laisser la main à la Russie? Car on voit que la dernière carte à jouer par la France, c'est la sanction exercée économiquement à l'encontre de 5 responsables importants maliens en gelant leurs biens, en leur interdisant d'entrer sur le sol des pays occidentaux. Est-ce que la France va laisser la main?
Je pense que la France sera obligée de laisser la main, disons, le combat est trop élevé pour elle. La France ne peut avoir d'efficacité, c'est un slogan peut-être, mais enfin c'est une réalité à mon avis, qu'à l'intérieur d'une entente européenne. Or, cette entente européenne d'hostilité à la Russie n'est pas partagée. Elle n'est pas partagée par l'Allemagne, par exemple. L'Allemagne s'est divisée. C'est divisée d'une façon, convenue dans l'ordre, comme ce qu'elle fait. Elle a une partie qui est favorable à la Russie, une partie qui est favorable aux États-Unis. Et je crois que la France, son influence en Europe est par là même réduite, dans la mesure où, je répète sur ceci, l'Allemagne, elle, tente vers les États-Unis ou vers la Russie, d'augmenter sa propre influence. Cette politique franco-allemande, qui était celle d'ailleurs du général de Gaulle autrefois, n'est plus de mise aujourd'hui. Et donc la France se retrouve isolée, affaiblie. Voyez-vous, considérablement affaiblie, et je crois qu'elle ne peut pas jouer le même rôle qu'elle a prétendu jouer jusque, M. Sarkozy ou M. Hollande. Je crois que c'est là une fin de chapitre. Et ces événements du Mali sont, à mon sens, la véritable fin de l'ancien colonialisme français.
Luc Michel, vous aurez le dernier mot du débat d'aujourd'hui. Votre réaction, je vous prie.
La France, elle n'est pas prise seulement dans une tenaille face au bloc de l'Est et surtout à la Russie. Elle est également prise dans un triangle d'acier. Il y a le bloc de l'Est, il y a les masses panafricaines, mais la troisième mâchoire de la tenaille, c'est ceux qui étaient les alliés de la France, les Américains. La France-Afrique s'est maintenue pendant 60 ans parce que la France avait noué une alliance avec les Américains à partir de Giscard d'Estaing. On disait que la France était le gendarme de l'Afrique, Donald Trump disait le shérif. Mais depuis 2019, les Anglo-Saxons, les Britanniques et les Américains, ils sont en rivalité économique, c'est le Brexit par exemple, avec les Français, et ils veulent reprendre les marchés africains des mains des Français. Les Américains veulent donc américaniser et otaniser la guerre du Sahel en l'enlevant aux mains des Français. C'est cette perte de l'allié américain que payent les Français, ils ne s'en sont pas rendus compte. Le journal Le Temps, il y a quelques jours, disait que l'arrogance d'Emmanuel Macron n'avait d'égal que sa stupidité. Macron joue les proconsuls au Liban, ils jouent les sauveurs de la paix en Russie, ils rencontrent Poutine ce jour, mais en même temps, ils adoptent des sanctions contre les amis de Poutine qui sont les dirigeants des paramilitaires russes. Ils agressent la Russie en Ukraine, en Méditerranée, un peu partout en Mitteleuropa et également au Proche-Orient. La France, évidemment, elle paye cette attitude ambiguë et elle paye surtout cette posture géopolitique où elle joue qu'on va être un des cinq grands alors qu'elle est une petite puissance déclassée au milieu d'une Europe qui elle n'est qu'un nain géopolitique alors qu'elle est un géant économique. Au sein même de l'Europe, la France s'est déclassée en combattant l'Allemagne, pillant Libye par exemple, etc., etc. La France n'a pas compris qu'on était dans une nouvelle ère géopolitique. Elle le paye aujourd'hui. C'est la fin de la France-Afrique. Il y a quelques semaines, lors du sommet de Montpellier, la dernière biographie de la France-Afrique a été sortie. Elle s'intitule « L'Empire qui ne voulait pas mourir ». Aujourd'hui, nous assistons à l'agonie de l'Empire français. Et le responsable, c'est Emmanuel Macron, avec ses homologues, Madame Parly et Le Drian. Le Drian, le nouveau monsieur Foucault. Mais Foucault avait bâti la France-Afrique. Le Drian, lui, avec son arrogance, il est en train de la détruire.
Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
En raison de sa belle et généreuse nature, de ses cascades, ses forêts et de sa proximité avec Téhéran, est très visité. Céréales, fruits, coton, thé, tabac, canne à sucre et soie figurent parmi les produits naturels cultivés du Mazandaran. Le Mazandaran, très présent dans la mythologie et la littérature iranienne, et trouve naturellement une place de choix dans le Shahnameh, épopée écrite par le poète Ferdowsi il y a plus d'un millénaire, et le village de Yush, où naquit le poète iranien contemporain Nima Yushich. Des conditions climatiques favorables, de magnifiques paysages et la proximité de Téhéran ont fait le Mazandaran l'une des principales régions touristiques d'Iran. Le Mazandaran est appelé le paradis perdu par les amoureux de la nature. Pourquoi les États de l'OTAN commettent-ils un suicide énergétique? Il y a un grand paradoxe dans la position militaire de plus en plus agressive des États-Unis et de l'OTAN à l'égard de la Russie et de la Chine lorsqu'on la compare aux politiques économiques nationales clairement suicidaires de l'agenda vert des États-Unis et des États de l'Union européenne et de l'OTAN. Une transformation étonnante des économies des pays industriels les plus avancés du monde est en cours et prend de l'ampleur. Le cœur de cette transformation est l'énergie et l'exigence absurde d'une énergie zéro carbone d'ici 2050 ou avant. Éliminer le carbone de l'industrie énergétique n'est pas possible à l'heure actuelle, ni peut-être jamais. Mais si l'on cherche à l'atteindre, cela signifie que les économies les plus productives du monde seront mises en pièces. Sans une base énergétique industrielle viable, les pays de l'OTAN deviennent une plaisanterie militaire. Nous ne pouvons pas parler d'énergie renouvelable pour le solaire, l'éolien et le stockage sur batterie. Nous devons parler d'énergie non fiable. C'est l'un des délires scientifiques les plus colossaux de l'histoire. Le 31 décembre 2021, le nouveau gouvernement de coalition allemand a fermé définitivement 3 des 6 centrales nucléaires restantes. Ils l'ont fait à un moment où les réserves de gaz naturel étaient extrêmement basses à l'aube d'un hiver difficile et où tout front froid sévère pouvait entraîner des pannes d'électricité. En raison du refus allemand d'autoriser l'importation d'un deuxième gazoduc russe, Nord Stream 2, l'Allemagne est confrontée à une augmentation de 500% du prix au comptant de l'électricité par rapport à janvier 2021. En 2011, lorsque la chancelière Merkel a déclaré la fin anticipée de l'énergie nucléaire, sa tristement célèbre Energiewende, pour sortir du nucléaire et passer aux sources renouvelables, 17 centrales nucléaires ont fourni de manière fiable 25% de toute l'énergie électrique du pays. Les 3 centrales restantes doivent maintenant fermer d'ici fin 2022. Dans le même temps, le programme d'énergie verte du gouvernement, depuis 2016, a entraîné l'arrêt de la production de 40,8 gigawatts par des centrales à carbone à partir de janvier 2022. Pour compenser le fait que le solaire et l'éolien, malgré une propagande élogieuse, ne comble pas le vide, le réseau électrique allemand doit importer une quantité importante d'électricité des voisins de l'Union européenne, la France et la République tchèque, ironiquement en grande partie de leurs centrales nucléaires. L'Allemagne a aujourd'hui le coût de l'électricité le plus élevé de tous les pays industrialisés en raison de l'Energiewende. L'approvisionnement en électricité nucléaire en provenance de France pose désormais un problème. En décembre, EDF, l'agence nucléaire française, a annoncé la fermeture de 4 réacteurs pour inspection et réparation, suite à la découverte de dommages dus à la corrosion. Le président Macron, confronté aux élections d'avril, tente de jouer les champions du nucléaire dans l'Union européenne en s'opposant à la forte position anti-nucléaire de l'Allemagne. Mais le pont nucléaire est vulnérable et il est peu probable que la France fasse de nouveaux investissements majeurs dans le nucléaire, malgré les déclarations récentes avec des plans pour fermer 12 réacteurs dans les prochaines années, ainsi que le carbone, laissant la France et l'Allemagne vulnérables aux futures pénuries d'énergie. Le programme France 2030 de Macron prévoit d'investir la bagatelle d'1,2 milliard de dollars dans la technologie nucléaire des petites centrales. Mais la question du nucléaire n'est pas la seule mouche dans la soupe énergétique de l'Union européenne. Chaque aspect du plan énergétique actuel de l'Union européenne est conçu pour anéantir une économie industrielle moderne. Et les architectes qui financent généreusement les groupes de réflexion verts, comme l'Institut de Potsdam en Allemagne, le savent. Amener l'éolien et le solaire, les deux seules options sérieuses mises en œuvre, à remplacer le carbone, le gaz et le nucléaire, est tout simplement dit impossible. La question du nucléaire n'est pas la seule mouche dans la soupe énergétique de l'Union européenne. Pour l'Allemagne, un pays dont l'ensoleillement n'est pas optimal, l'éolien est la principale alternative. Le problème de l'éolien, comme l'a montré l'hiver 2021, est qu'il ne souffle pas toujours et de manière imprévisible. Cela signifie des pannes d'électricité ou un système de secours fiable, ce qui signifie du carbone ou du gaz naturel, car le nucléaire est évincé. Les éoliennes sont évaluées de manière trompeuse en termes de capacité théorique brute lorsque des États, comme l'Allemagne, veulent se vanter des progrès réalisés dans le domaine des énergies renouvelables. En réalité, ce qui compte, c'est l'électricité effectivement produite au fil du temps, ou ce que l'on appelle le facteur de capacité ou le facteur de charge. Pour le solaire, le facteur de capacité n'est généralement que de 25% environ. Dans le nord de l'Europe ou en Amérique du Nord, le soleil ne brille pas 24 heures sur 24. Le ciel n'est pas non plus toujours sans nuages. De même, le vent ne souffle pas toujours et n'est guère fiable. L'Allemagne se targue de produire 45% d'énergie renouvelable brute, mais cela cache la réalité. Dans une étude réalisée en 2021, l'Institut Fraunhofer estime que l'Allemagne doit installer au moins 6 à 8 fois plus d'énergie solaire qu'aujourd'hui pour atteindre l'objectif de zéro émission de carbone en 2045. C'est pourquoi le gouvernement refuse d'estimer les coûts, mais les estimations privées se chiffrent en billions. Le rapport indique que la capacité solaire brute actuelle de 54 gigawatts doit atteindre 544 gigawatts d'ici 2045. Cela signifie un espace terrestre d'1,4 million d'hectares, soit plus de 16 000 km² de panneaux solaires solides à travers le pays. Et ajouter à cela de grandes stations éoliennes. C'est une recette suicidaire.